Le quart d'heure e-sport. Une émission sur l'actualité et l'agenda des tournois e-sport amateurs, semi-professionnels et professionnels à l'échelle locale, nationale et internationale. Retrouvez-nous tous les dimanches à 12h30 sur le 91.1 FM pour Blois et ses environs et aussi sur studiozef.fr. Retrouvez aussi le quart d'heure e-sport sur Twitter et sur Discord. Bonjour à tous et bienvenue dans le quart d'heure e-sport. Souvenez-vous, dans l'émission du quart d'heure e-sport sur l'actualité et l'agenda e-sport du 12 février dernier, j'ai parlé du championnat fédéral Rocket League de la FFJV, la Fédération Française de Jeux Vidéo. Le championnat fédéral de la FFJV, une compétition ouverte aux associations adhérentes de la FFJV sur le jeu Rocket League, a débuté le 6 février dernier en format online et se terminera le 21 mai prochain à Bordeaux à l'occasion du Bordeaux Geek Festival. Cette compétition est organisée par la FFJV. Durant plusieurs semaines, 18 équipes s'affrontent pour remporter le titre et aussi 1000 euros de cash prize à se répartir entre les 4 meilleures équipes du tournoi. Les matchs sont à suivre sur la chaîne Twitch de la FFJV. Dans cette émission, j'ai interviewé Tristan Brandilly, président de la FFJV, à propos des phases de qualification française aux IESF Master et aussi du championnat fédéral Rocket League de la FFJV. Pour information, cette émission sera découpée en deux parties. Une première partie de l'émission qui est diffusée aujourd'hui sur Studio Zef, puis une seconde partie de l'émission qui sera diffusée le dimanche 7 mai prochain sur les ondes de Studio Zef et aussi sur studiozef.fr. Tout de suite, la première partie de l'interview. Bonjour Tristan, merci de m'avoir accordé du temps pour cette interview. Peux-tu te présenter ainsi que la FFJV, la Fédération Française de Jeux Vidéo ?
Eh ben, bonjour Sarah. Alors moi c'est Tristan Brandilly, le président actuel de la FFJV, Fédération Française de Jeux Vidéo. Moi j'ai la trentaine, je travaille à côté, hein, je suis fonctionnaire d'État. J'ai débuté le jeu vidéo petit, hein, comme à peu près tout le monde. C'était sur Age of Empires 2 surtout, donc ça remonte, je crois que j'ai eu mon premier PC en 97. Ça fait quelques petites années. Ensuite, je me suis un petit peu intéressé à l'e-sport à la sortie de StarCraft 2, donc en 2011-2012. À cette époque-là, j'étais militaire. Ça me permettait de jouer avec les collègues. Comme j'étais marin, on jouait aussi un peu, alors pas forcément à StarCraft 2, mais sur le bateau, lorsqu'on avait des temps de pause. Hein, ça arrive, hein, on a quand même des temps de pause, même en étant militaire. Et puis voilà, puis de fil en aiguille, j'ai intégré une association qui s'appelle Restart eSport, qui est basée à Gradignan, à côté de Bordeaux. Et puis après, j'ai toujours voulu m'investir un petit peu au sein du développement et de l'accompagnement associatif. Avant d'œuvrer dans le jeu vidéo, j'ai œuvré aussi dans la production musicale. J'avais un label, une sorte de maison de disques indépendante, spécialisée dans le rock et le hard rock. Et puis voilà, en 2018, j'ai rejoint le programme des référents de la Fédération Française de Jeux Vidéo, dont le but était de pouvoir faire le lien entre territoire, c'est régions et départements, entre les collectivités locales et le comité directeur. À ce moment-là, c'était en 2018, mais j'étais en océan Indien, à Mayotte, depuis 2016. Je rentre en 2020, et puis en 2020, j'ai été élu à la présidence de la FFJV, à la suite de M. Franck Fontaine.
D'accord. Enfin, d'où est venue l'idée de créer cette fédération ? Je sais que c'est pas toi qui as créé, mais est-ce que tu peux en dire un peu plus sur les origines de la FFJV ?
Oui, alors tout à fait. Donc la FFJV, qu'est-ce que c'est ? Donc ça a vu le jour en 2013 par Franck Fontaine et Lionel Berléand, si je dis pas de bêtises. Après, j'écorche toujours un petit peu son nom de famille, mais c'est comme ça. Le but, c'était de pouvoir regrouper les acteurs du jeu vidéo et de l'e-sport au sein d'un organisme fédéral afin de pouvoir trouver des solutions au développement de la pratique en France. Donc c'est un peu ce qu'on retrouve avec le France e-sport. France e-sport qui est venu bien plus tard, hein, l'idée a été émise en 2016 et c'est sorti en 2018. La FFJV, elle a fait un petit peu tout. Elle est issue de plusieurs regroupements différents. Donc, il y a eu la FFJVR, donc Fédération Française des Jeux Vidéo en Réseau. Il y y a eu la FFJVE, Fédération du jeu vidéo et de l'e-sport, etc. Et en fait, le système de la FFJVE, lui, c'était vraiment un système qui ressemble beaucoup à une fédération sportive traditionnelle. C'est-à-dire qu'il y avait, une entité nationale, enfin un bureau national, composé d'un comité directeur, de techniciens et de responsables de ligue. Et puis derrière, le but était de pouvoir créer des compétitions dans un petit peu tous les départements, des sortes de circuits e-sport amateurs, et de pouvoir après réaliser des finales à droite à gauche. Il y a eu plusieurs choses qui se sont passées entre 2013 et 2020. C'est vrai qu'on a pris un gros virage en 2020, donc je vais revenir un petit peu après. Et notamment la sortie de France e-sport, en fait, la seule chose qui manquait à la FFJV, et qui manque toujours à la FFJV, c'est le dialogue ouvert avec les éditeurs et avec les propriétaires intellectuels de chaque jeu. Ça veut dire, la propriété intellectuelle, c'est pas seulement l'éditeur, c'est aussi le studio de création et celui qui en a l'idée, le concepteur du jeu vidéo. Et c'est ce qui manque un petit peu. Donc il y a eu plusieurs choses qui ont été faites maladroitement. Et c'est pour ça qu'en 2020, on a essayé de changer un petit peu toute cette fédération. En 2020, on s'est dit que ça servait à rien d'essayer de faire comme France Esports en ayant des promoteurs, essayant de trouver des éditeurs, etc. Et on va dire des compagnies privées au sein de cette fédération-là. Et donc du coup, maintenant, on s'est vraiment orienté sur l'accompagnement des associations. C'est-à-dire qu'on se décline sur trois actions. La première action, ça va être d'accompagner les associations dans leur gestion administrative. Dans l'e-sport et le jeu vidéo en France, il y a beaucoup d'associations et d'entités différentes. Le baromètre de France e-sport en dénombre entre 500 et 1000, tout dépend les années, tout dépend surtout des personnes qui veulent bien enregistrer les noms et puis la donner. Mais en réalité, il n'y a à peine une centaine d'associations, et encore, je suis très large, qui vont respecter le schéma d'une association de loi 1901. Faut savoir que l'association de loi 1901 a été créée du coup en 1901, et le but était de pouvoir mettre en avant les valeurs. C'est-à-dire qu'une association, c'est un regroupement de personnes autour de valeurs communes, autour d'un projet commun, et le but, c'est de pouvoir justement développer ce projet-là, et surtout développer ces valeurs-là. Faut savoir que les valeurs bénévoles sont typiques à la France. On a très peu ces mêmes valeurs et ce statut d'association de 1901, on ne l'a pas dans les autres pays. Et en fait, on s'aperçoit maintenant dans les sports que beaucoup de personnes veulent essayer de grappiller des sous, d'essayer de développer, de faire de l'argent, et on sort complètement des valeurs associatives. Et pour cela, la gestion des associations se fait complètement un peu à la carte. Il n'y a quasiment pas de respect des chartes et de la législation. Il faut savoir qu'une association, elle est tenue de respecter une certaine loi. C'est-à-dire que chaque année, on doit envoyer le bilan de l'association, le bilan d'activité, le bilan financier, les comptes rendus d'Assemblée Générale, tout ça, on doit pouvoir les envoyer aux collectivités et à la préfecture compétente. Et en réalité, il y en a très peu qui le font.
Il y a aussi le bilan moral aussi.
Voilà, et également le bilan moral. Mais de toute façon, tout ce qui est bilan activité, bilan moral, ça va un petit peu en même temps. Et en fait, on s'aperçoit que très peu de personnes le font. C'est pareil, le bureau est censé être élu de manière démocratique, avec un mandat qui prend entre... tout dépend les statuts, hein, ça peut être tous les 6 mois, ça peut être tous les ans, tous les 2 ans, tous les 10 ans aussi. Mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas respectées. Et donc c'est là où on va intervenir, organiser les associations, dans le respect des règles, et également dans la gestion comptable et ce qui s'ensuit. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gestion comptable, enfin d'associations qui n'ont pas de gestion comptable. C'est-à-dire qu'ils ont des entrées et des sorties, mais c'est noté nulle part. Ce qui fait que si demain il y a un contrôle sur ces associations-là, la plupart du temps, elles vont avoir des petits soucis. Pour faire simple, tout comme les assurances, une association se doit, et c'est obligatoire d'avoir une assurance à minima responsabilité civile, ainsi que la responsabilité civile du président, pour éviter d'engager que le président engage ses biens tout simplement dans l'association en cas de problème. Et il y a des associations qui n'ont pas ça. Donc ça, c'est notre première action, c'est vraiment d'essayer d'accompagner les associations dans la compréhension de leur statut et la compréhension de leur action. La deuxième action qu'on va mener, ça va être de la prévention et de la sensibilisation autour du jeu vidéo. Donc la prévention des risques liés aux abus. Il y a des abus de jeux vidéo, on le sait. D'ailleurs, c'est un petit peu tout à chaque fois ce qui va être relevé par les personnes qui ne connaissent pas le jeu vidéo et l'e-sport, notamment des personnes qui vont rester en marge de la société, des personnes qui ne vont pas sortir de chez eux, des personnes qui vont avoir des problèmes aussi, parce que en cliquant sur n'importe quoi dans certains jeux, on peut y faire passer son compte en banque, par exemple. Donc ça, on essaie de faire un peu de prévention là-dessus, et également de la sensibilisation aux bonnes pratiques, parce que comme dans toute pratique, que ce soit le sport ou n'importe quoi, quand la pratique est encadrée, en général, elle est bien faite. Donc on sensibilise grâce au réseau des ambassadeurs ambassadeur pédagogeux. On va sensibiliser un petit peu sur cette thématique d'éducation du jeu vidéo, autour du jeu vidéo et de l'e-sport. On va également faire tout ce qui est dédiabolisation, c'est-à-dire que bah oui, le jeu vidéo, c'est, certes, ça peut être mal, mais également, c'est également très bien. C'est-à-dire que bah, on peut redonner de la motricité à certaines personnes grâce au jeu vidéo. On peut également essayer d'amoindrir certaines pathologies comme l'Alzheimer, ça a été prouvé par certaines études. Et puis il y a également tous les aspects positifs de l'e-sport, à savoir le développement cognitif, le développement également de liens sociaux. Enfin voilà, donc il y a beaucoup de la motricité, la dextérité, la réactivité aussi. Donc on essaie de mettre un peu tout ça en avant, histoire de pouvoir dédiaboliser la pratique. Et enfin, notre dernière action, ça va être une action vitrine. C'est celle qu'on va voir le plus sur nos réseaux sociaux, c'est celle qu'on va mettre un petit peu plus en avant. C'est un système de compétition. Donc on a deux systèmes de compétition. On a une compétition fédérale qui est votée chaque année par le bureau fédéral de la FFJV. Donc qu'est-ce que le bureau fédéral ? Le bureau fédéral, c'est composé d'un représentant de chaque association adhérente. Actuellement, on a 30 associations adhérents, ce qui fait qu'un bureau fédéral composé de 30 personnes, plus le comité directeur. Le comité directeur est élu pour une période glissante de 3 ans. Tous les ans, il y a un membre du comité directeur qui est sortant, un autre qui est rentrant. On peut se représenter, hein, il n'y a pas de mandat maximum. Et donc le comité directeur va imposer une ligne de conduite. Par exemple, bah, on aimerait bien, sur la roadmap, développer ça, tel sujet ou tel sujet d'ici 2 ou 3 ans. Et le bureau fédéral, lui, il va voter et approuver les décisions du comité directeur. Un peu du même principe de ce qu'on va voir à l'État, hein. Donc on a le gouvernement qui établit, qui propose des lois, le Parlement qui va les voter, c'est un peu ce qu'on retrouve au niveau de la FFJV. Donc on a un championnat fédéral qui se pratique, alors depuis 2020 ou 2021 avec la crise du Covid, on le fait beaucoup en ligne, et l'année prochaine on va essayer de faire un petit peu plus de phases qualificatives en présentiel. Il y a quelques phases qualificatives, et après on fait une finale en présentiel avec les finalistes qu'on va inviter. Donc en 2021 on a fait ça sur Magic Arena et Teamfight Tactics. Les finalistes ont été invités au Mikasius Arena, qui est un grand cybercafé, enfin cyberespace plutôt, qui est situé en plein Châtelet à Paris, donc en plein cœur de Paris. Et puis cette année, le bureau fédéral a voté et souhaité qu'on fasse un championnat sur Rocket League. Et du coup, on a réussi à trouver un lieu pour la finale qui est assez intéressant, qui est le Bordeaux Geek Festival, qui est l'un des plus gros festivals de culture geek et de pop culture en France. Et la finale va se dérouler du 19 au 21 mai. Et à côté, on a également rejoint la Fédération Internationale d'e-sport, donc l'IESF, et la Fédération Européenne d'e-sport, qui vont un petit peu, qui travaillent ensemble, l'EF. Et ça nous permet, nous, de pouvoir participer à des championnats d'Europe et des championnats du monde des nations en posant une équipe de France.
Maintenant place à la première pause musicale, le morceau Final Destination du groupe Dharma.
destination.
De retour sur Studio ZEF, nous sommes toujours dans le quart d'heure esport dédié à la FFJV, la Fédération Française de Jeux Vidéo. Tout à l'heure, c'était la première partie de l'interview. Avec Tristan, on a parlé de ce qu'est la FFJV. Je vais poursuivre cette première partie de l'émission de la FFJV avec la seconde partie de l'interview autour des différentes fédérations esport qui existent en France. Tout de suite, la seconde partie de l'interview.
D'accord, bah, y a pas mal de points que tu as abordés, donc je vais en revenir. Bah, tu as tout d'abord parlé de France eSport au début, qui est une fédération qui est arrivée après la FFJV.
Oui, tout à fait.
Et aujourd'hui, bah, il existe 5 fédérations eSport en France, que je trouve un peu beaucoup.
Oui, tout à fait. Ouais.
Et malgré qu'il y ait des spécificités propres entre chaque fédération, notamment entre la FJV, puis France eSport et aussi la UAF, bah, que penses-tu du fait qu'il y ait autant de fédérations eSport en France ?
Alors, donc là, on vient de citer les principales. J'allais dire les trois plus importantes, mais non, c'est les trois principales. Il faut savoir que France eSport ne se positionne pas comme une fédération, mais plus comme un groupe de travail, comme une. Je vais dire. Qu'est-ce que je peux dire pour pas. Ouais, c'est plus un groupe de travail, c'est-à-dire qu'au niveau de France eSport, il va y avoir. Ça va être une table composée principalement de parties privées. Quand je dis parties privées, je parle de promoteurs privés, hein, d'entreprises qui vivent du jeu vidéo d'un certain point ou un autre. Hein. Il y a des éditeurs, il y a des promoteurs d'événements, il y a des assureurs, il y a des avocats, enfin des cabinets d'avocats, etc. Donc, c'est des entreprises qui vont vivre du jeu vidéo et de l'e-sport. C'est très bien qu'ils soient regroupés ensemble, parce que ça permet, et qu'ils laissent également une petite part à l'associatif, parce que ça permet de pouvoir poser un petit peu toutes les problématiques et de pouvoir derrière trouver des solutions adaptées à tous. C'est-à-dire qu'une association, bah, sa problématique, c'est qu'elle n'a pas de sous pour aller en LAN, par exemple. Le promoteur, du coup, il va comprendre ça, il va se dire « Ah ouais, mais peut-être que mon événement, il est un petit peu trop cher, donc je vais le baisser. » Et l'éditeur, derrière, il va dire « Ok, bah, moi, c'est bien, il y a un promoteur qui met mon jeu en avant, bah, ça me fait de la publicité, donc du coup, qu'est-ce que je peux faire pour aider le développement des compétitions présentielles ou en ligne en France ?» Et ça, c'est très bien. Donc, ça, c'est un peu cliché, c'est très raccourci, ce que je dis. Hein. Il se passe plein de choses à France eSport, je connais pas tout, parce que moi, je ne suis pas membre de France eSport, que ce soit en tant que joueur simple, en tant qu'association ou quoi que ce soit, je ne fais pas partie de ça. Et justement, c'est ma volonté, en fait, de ne pas être adhérent de France eSport pour pouvoir, justement, ne pas être jugé parti, ne pas être accusé, entre guillemets, de vouloir piquer des idées à droite à gauche. Donc, ça, c'est très bien. France eSport, c'est une très bonne chose. La FFJV est vraiment côté purement associatif et France eSport, ça va être un petit peu le côté business économique. Donc, je pense que là-dessus, on se complète. Le but est le même, hein, c'est de pouvoir développer et rendre beaucoup plus accessible l'e-sport et le jeu vidéo en France. Après, il y a l'UAEF qui avant s'appelait la Fédération des associations e-sportives de France. Elle va plus se présenter comme un syndicat ou comme un protecteur des droits des associations et des joueurs au sein de France eSport. C'est-à-dire que ça va être un peu le porte-voix, si on fait une petite comparaison avec la France, ça va être un petit peu la CGT de France eSport, grosso modo, si on veut faire ça rapidement. Mais voilà, donc ils vont arriver pour porter les lois et défendre un petit peu les valeurs associatives au sein de France eSport. Donc ça, c'est très bien. En fait, ces trois-là se complètent et ont chacune leur champ d'action. Il y a beaucoup de choses connexes entre les deux. Le mieux, dans le meilleur des mondes, il faudrait qu'on puisse tous travailler ensemble avec chacun nos actions, mais qu'on puisse, je sais pas, laisser le champ à celui d'à côté, par exemple sur tout ce qui est économie, business, de l'e-sport, faire venir les capitaux étrangers, etc. C'est pas le but de la FFJV. Là, on va laisser tout ce côté-là à France eSport. La reconnaissance de l'e-sport en France, ça pourrait être un rayon d'action de la FFJV, mais c'est vrai qu'il y a quand même un peu plus de moyens chez France eSport, donc on peut essayer de laisser un peu ce côté à France eSport, sachant que nous sommes également inclus sur les groupes de discussion des différents ministères. Donc, pour porter la voix associative là-dessus, il y a vraiment des choses connexes. Et pareil, pour la protection des droits, la protection des joueurs au niveau de ce que va dire France eSport ou quoi que ce soit, l'UEAF, est très intéressante là-dessus, parce qu'elle partage les mêmes valeurs que la FFJV, et donc elle a beaucoup plus de quoi au sein de France eSport pour pouvoir proposer ces idées-là. Après, il y a deux autres fédérations, pseudo-fédérations, entre guillemets, qui existe. Donc il y a la Fédération Française d'e-sport qui n'a aucun statut juridique, qui n'existe plus d'ailleurs. Elle a été créée, il me semble, il y a 4-5 ans, mais elle est mort-née, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de monter un truc, et au bout d'un mois, ils ont arrêté. Mais les réseaux sociaux existent encore. Quand on tape Fédération Française d'e-sport, on tombe sur leur site qui n'est plus du tout alimenté et qui est le même de plusieurs années. Donc bon, là-dessus, je pense que c'est quelque chose de mort qui n'existe pas. Et après, il reste l'union de l'e-sport francophone, ou je sais plus exactement comment ça s'appelle, et l'union des structures e-sport francophones, ou je sais pas trop. Et ça a été créé il y a très peu de temps, il y a 2 mois, je crois. Et avant de se créer, ils ont parlé à tout le monde, ils ont posé des questions à tout le monde. Et en fait, eux, dans leur tête, c'est vraiment essayer de faire des trucs avec toutes des choses, des actions avec les francophones. Donc, ça veut dire qu'ils partent du principe qu'eux, ils sont plus dirigés international parce qu'ils parlent avec des Maliens, des Congolais, des Suisses, des Canadiens, etc. Quand on va un petit peu plus dans le détail, on s'aperçoit que c'est pas vraiment vrai, quoi. C'est plus encore, on va dire, quelque chose qui va faire de l'ombre. Donc oui, effectivement, qu'il y ait 5 regroupements différents, ça fait de l'ombre un peu à l'e-sport, ça fait trop. Ça nous fait passer un peu pour des clowns au niveau international. Mais néanmoins, le trio France e-sport, FFJV et UAEF, il y a quelque chose à faire. C'est-à-dire que si demain, on doit créer une fédération reconnue, officielle, dictée un petit peu par l'État, avec comme il se passe dans une fédération, c'est-à-dire avec des représentants du ministère des Sports en tant que conseiller technique ou directeur technique, etc. Eh bien, je pense qu'il faudra s'asseoir tous les trois à la même table et essayer de participer à la création de cette entité. Moi, je suis pour une création d'une entité unique qui regroupera les trois autres. Par contre, je suis contre le fait que ce soit une des trois entités qui prenne le lead sur tout ce qui va se passer.
Ouais, c'est l'idée d'avoir quelque chose d'égalitaire, en fait, qui inclut le côté business, le côté associatif.
Pour moi, il est inconcevable, en fait, qu'une pratique, qu'elle soit sportive, e-sportive ou culturelle, soit gérée par des lobbies. C'est-à-dire qu'on va prendre peut-être le bémol que je reproche à France e-sport, ça va être sur le conseil d'administration constitué de 12 membres, je crois, 12 ou 16, je ne sais plus, je crois que c'est 12 ou 16. Il n'y a que 3 représentants associatifs. Et au sein du bureau, il n'y en a que 2. Et je trouve que c'est vraiment trop peu. On ne peut pas avoir une direction qui est jugée, qui est partie prenante, qui a des ambitions économiques au sein même de l'espace. C'est-à-dire que dire il faut que ça évolue dans tel sens, c'est bien, mais on se posera toujours la question de « ouais, mais est-ce que c'est pas… Il n'y a pas un conflit d'intérêt derrière quand on voit que M. Coussavo est actionnaire d'une entreprise qui organise des événements et qui est promoteur d'e-sport. On peut se dire, effectivement, oui, c'est bien, ils ont de belles idées, mais est-ce qu'il n'essaye pas de faire en sorte que ça aille dans son sens? Et je trouve que c'est ce qu'on a beaucoup reproché à la FFJV du temps de M. Fontaine, parce qu'il il a également son entreprise événementielle. Et je trouve que tout le monde avait raison de reprocher ça à Franck. Et maintenant que Franck n'est plus là, je me dis, voilà, on sait que la FFJV est gérée par des personnes qui n'ont aucun intérêt dans le milieu du jeu vidéo. Hein. Nous, au niveau du comité directeur, on n'en a aucun qui vit du jeu vidéo. On a tous un comptable, on a un responsable informatique, enfin moi je suis fonctionnaire, on a des animateurs et puis on a un auto-entrepreneur. Et il n'y en a aucun qui a un intérêt dans l'e-sport. Et je me dis que si on crée une entité regroupe, une véritable entité reconnue par état, etc. Il faut que le conseil d'administration, ou du moins le bureau, le comité directeur ou le bureau, ne soit pas du tout constitué de personnes ayant une certaine position au sein de la pratique.
Et en fait, tu as parlé aussi de l'IESF aussi, donc, qui est la Fédération Internationale de l'e-sport, qui est basée en Corée du Sud.
À Busan, oui, exactement. Ouais.
La FFJV s'occupe des phases de qualification françaises.
Oui, tout à fait.
Donc, est-ce que tu peux en dire un peu plus là-dessus?
Ouais, pas de souci. Alors, l'IESF, donc la Fédération Internationale de l'e-sport, c'est ce que ça donne. Elle a été fondée en 2008. Par 9 pays différents. Il y avait l'Afrique du Sud, la Corée du Sud, la Suisse, la Belgique, et puis les autres, il y avait les États-Unis aussi, je crois, et puis je ne sais plus trop, les dernières. Le but, en fait, c'est de pouvoir proposer des compétitions internationales sous blason de nation, c'est-à-dire avec des équipes nationales qui représentent leur pays, et non pas une équipe ou quoi que ce soit, parce qu'on a les Worlds de League of Legends, par exemple, mais c'est constitué d'équipes, de clubs, un peu du niveau de Ligue des Champions, Nations. On a également la même chose sur Counter-Strike, mais c'est pareil, ça reste des clubs. On a sur Dota, c'est pareil, il y a The International, mais ça reste des clubs et des équipes privées. Et donc, du coup, en fait, le but de l'IESF, ça a été de pouvoir poser des compétitions basées sur le modèle des Jeux Olympiques, avec une sélection nationale d'équipes faites soit par le biais de qualifications, soit par le biais de sélection de joueurs. Hein. C'est notamment le cas pour nous cette année. On a nous deux, on est présents sur eFootball, Tekken 7, Counter-Strike féminin, justement, et Dota 2. Bah, les équipes féminines de Counter-Strike et l'équipe masculine de Dota 2, elles ont été sélectionnées parce qu'on a sélectionné les joueurs et les joueuses. On n'a pas fait de qualification. Un, parce que les communautés sont petites, sont pas assez mises en avant. Et deux, parce que on avait aussi l'ambition cette année de fournir les deux meilleures équipes possibles et non pas juste une équipe qui aurait été capable de... Enfin, qui passerait même pas les phases régionales européennes. Donc voilà, donc le but, c'est vraiment de pouvoir créer une compétition basée sur les valeurs de l'olympisme, avec chaque État représenté, pour mettre en avant un pays et non pas juste une équipe. Et puis, faut savoir que l'IESF, depuis 2019, elle est présidée par Vlad Marinescu, donc un Hongrois qui est habillé naturalisé américain. Et ce monsieur, il est également directeur général de la Fédération internationale de judo. Donc tout ce qui est valeur de l'olympisme, tout ce qui est future reconnaissance envers le CIO, etc. Et ben c'est la personne à qui parler. Et c'est voilà, ça prouve également que.
Maintenant, place à la seconde pause musicale, le morceau Chosen de The Fatra en duo avec Anna Yvette et Laura Brahim.
You're the one.
De retour sur Studio ZEF, nous sommes toujours dans le quart d'heure e-sport dédié à la première partie de l'émission sur la FFJV, la Fédération Française de Jeux Vidéo. Tout à l'heure, c'était la seconde partie de l'interview. Avec Tristan, on a parlé des différentes fédérations e-sport qui existent en France. Je vais poursuivre cette première partie de l'émission sur la FFJV avec la troisième partie de l'interview autour des phases de qualification française aux IESF Master. Tout de suite, la troisième partie de l'interview et fin de la première partie de l'émission sur la FFJV.
L'ambition de l'USF n'est pas de prendre la mainmise sur le monde de l'e-sport. Hein. Ils sont conscients que de toute façon, la différence entre l'e-sport et le sport, c'est la propriété intellectuelle et que le jeu vidéo restera toujours la propriété de son créateur, qu'il soit éditeur ou concepteur. Mais du moins, ils essayent de faire en sorte qu'il y ait ce côté un petit peu olympisme et combat des nations.
Ah, ça me fait penser, l'USF, dans la compétition qui aura lieu en août prochain en Roumanie, ça me fait plus penser à la Coupe des Nations.
Ouais, c'est un petit peu ça, ouais. C'est un championnat des nations en fait, c'est un peu comme on peut trouver une... Alors comme c'est tous les ans, on peut pas dire que c'est un peu les Jeux Olympiques du jeu vidéo, mais ça peut s'y rassembler, c'est-à-dire qu'on fait une compétition, les joueurs, chaque pays va défiler sur la cérémonie d'ouverture avec son drapeau, il y a les hymnes nationaux, à chaque victoire il y a l'hymne national du pays qui gagne comme lors d'un match de sport traditionnel, j'ai envie de dire. Ça fait un peu Coupe des Nations, c'est-à-dire que voilà, il y a une phase européenne, il y a une phase internationale ou une phase mondiale, il y a une phase qualificative en national, ce qui paraît semble logique parce qu'on ne peut pas forcément à chaque fois faire une sélection comme le ferait le sport traditionnel, quoique dans certaines fédérations, notamment en Asie, il y a des sélections qui se font parce que le joueur est fort, sauf sur les jeux en solo. Et nous, en France, de toute façon, on n'a pas vocation à dire, bah tiens, on va pas emmener tel joueur Tekken parce que c'est le meilleur, mais on va quand même faire un tournoi qualificatif.
Bah, ça permet aussi l'égalité des chances aussi.
Tout à fait.
Pour permettre au plus grand nombre de joueurs de participer et de représenter la France derrière.
Voilà, tout à fait. Après, c'est vrai que sur les jeux par équipe, on pourrait également se dire, bon, bah tiens, on va faire une qualification avec plein d'équipes. Mais on a eu un souci. Alors, déjà, sur Dota 2, c'est très difficile parce qu'on n'aura que deux ou trois équipes par qualification. Et le minimum légal, enfin, le minimum imposé par l'USF, c'est d'en avoir au moins 8. Donc, on est en dessous du minimum requis. Donc, sur Dota 2, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'on passe une sélection. Il faut savoir également qu'il y a très peu de joueurs en France. Du moins, il y a très peu de joueurs à vocation compétitive en France. Et ça nous permet de pouvoir prendre le top 10 français en excluant Seb, parce que c'est très compliqué de faire venir Seb, sauf à sa propre demande. Ça n'a pas été le cas. Mais voilà, on a regardé un petit peu le top 10 français qui existait. On s'est rapproché de la Frogette TV, donc qui est le premier média français de Dota 2. Et puis, avec eux, on a composé les Par contre, pour Counter-Strike, en fait, on a eu l'année dernière, on a essayé de faire un qualifier, ça s'est très bien passé, on s'était allié avec KRL, c'est-à-dire qu'on avait proposé de fournir un prix supplémentaire au vainqueur de la Coupe 1 qu'avait fait KRL. Ça avait été remporté par une équipe professionnelle. Le problème, c'est que cette équipe professionnelle, comme la FFJV n'a aucune reconnaissance d'État comme étant officiellement une fédération, et ben, ils voulaient pas jouer sous le maillot national, ils voulaient jouer sous leur maillot à eux et ils voulaient imposer. C'est-à-dire, en gros, ils voulaient que FFJV paye le transport, mais qu'ils puissent jouer avec leur propre maille. Donc on a dit, bah non, ça n'allait pas être possible.
Ce qui est contraire à l'IESF aussi.
Bah, c'est contraire à l'IESF, puis c'est surtout contraire à ce que, au but de la compétition, en fait. Donc on était passé par l'équipe numéro 2, qui était une association, qui était très bien, ils étaient très contents de jouer sous maillot français. Bon, ils ne sont pas qualifiés parce qu'ils étaient un petit peu en dessous du niveau des autres équipes européennes, mais voilà, on aurait pu faire comme ça. Mais on n'a pas envie, en fait. Nous, quand on fait une compétition, la FFJV, elles sont ouvertes à tous. C'est-à-dire qu'un professionnel ou un amateur peuvent très bien concourir. Le problème, c'est qu'un professionnel, et on le voit, une équipe professionnelle, et ben, elle va avoir des contrats, elle va avoir des restrictions avec ses partenaires et ses sponsors. Et ça va être très difficile de pouvoir allier les deux. Et c'est pour ça de passer par une sélection. Donc ça n'empêche pas que l'équipe de France féminine de Counter-Strike est composée par deux joueuses professionnelles, Astra et Emerald. Et ces joueuses ont demandé l'autorisation à leurs équipes justement de pouvoir représenter l'équipe de France féminine. Et ça a été accepté. On pourrait penser à terme qu'on puisse faire la même chose avec du Vitality, du Karmine Corp, du BDS et compagnie. Le problème, comme je disais un peu plus tôt, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des intérêts dans le jeu vidéo en France. Et on n'est pas assez conciliant. Enfin, c'est typiquement français, hein, mais on n'est pas assez conciliant avec le reste. Les valeurs bénévoles en France se perdent beaucoup. Et œuvrer pour une cause commune, les gens veulent bien le faire, à condition que derrière, ils puissent en tirer quelque chose. Et donc, c'est pour ça qu'actuellement, tant qu'il n'y a pas de reconnaissance officielle d'État ou quoi que ce soit, ça va être très difficile de pouvoir faire jouer ou faire intervenir un APEX, un ZIWO ou un exercice au sein de l'USF.
Mais effectivement, les calendriers Counter-Strike sont très très chargés.
Ouais, tout à fait. Les calendriers de Counter-Strike sont très chargés. Et puis, même si le joueur peut être intéressé, il faut savoir que le joueur, il est sous contrat, donc il a des clauses. Et dans ces clauses, il doit demander quand il joue, même quand il va faire un petit tournoi de quartier chez lui, parce que bah, le maire est content d'avoir un Apex, par exemple, au sein de sa ville. Bah, tiens, viens faire un tournoi avec 5, 4 gamins du quartier. Bah, il doit demander l'autorisation à son équipe. Et souvent, bah, l'autorisation est rejetée. Et, alors, quoi est-ce que ça peut l'être? Comme tu dis très bien, il y a le programme. Il faut savoir que partir en Roumanie fin août, c'est partir 10 jours. Donc, pendant 10 jours, l'équipe professionnelle, elle est privée de son joueur, sachant qu'il peut y avoir un major, il peut y avoir un qualificatif, un last change, ça ou quoi que ce soit, qui sont très importantes et sur lesquelles le joueur nécessite d'être présent avec son équipe. Et donc, c'est là où c'est un peu compliqué. Et c'est là également où l'USF essaie de travailler à une reconnaissance internationale de sa fédération pour pouvoir, après, derrière, aider les fédérations nationales à obtenir cette reconnaissance et ce petit coup de pouce de la part du ministère des Sports. Dans une équipe de foot, l'équipe de France de football, quand les joueurs partent en sélection nationale, leurs clubs doivent trouver quelqu'un d'autre pour les remplacer. Et ça se fait, les clubs peuvent être négatifs à tout ça, mais ils savent qu'ils ont l'obligation de laisser la sélection nationale choisir le joueur. Et en France, on n'a pas encore ça. Pourquoi? Parce que c'est une clause qui n'existe pas sur les contrats, parce que justement, l'e-sport n'est pas encore reconnu, il n'y a pas encore d'organisme fédéral reconnu officiellement par le gouvernement.
Bah, comme c'est le cas en Corée du Sud aussi, où ils ont la KESPA.
Oui, tout à fait, ouais, qui est la plus grosse fédération nationale au monde.
Donc oui, effectivement, bah, le fait qu'il y ait la KESPA en Corée du Sud, enfin, il y a une reconnaissance de l'e-sport au sein du gouvernement sud-coréen.
Oui, tout à fait. De toute façon, l'e-sport en Corée du Sud est reconnu au sein du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. C'est un ministère qui fait les trois, je crois. Et ils ont inclus le jeu vidéo au sein de ce ministère-là. Donc l'e-sport est une pratique reconnue, officielle, au même titre que le football, au même titre que n'importe quel sport qu'on pourrait trouver en Corée. Ils sont très forts au ping-pong. C'est le jeu vidéo et l'e-sport est reconnu au même titre que le ping-pong en Corée. Donc là-dessus, on a la Corée vraiment très en avance et ça date depuis presque 10 ans parce qu'en 2012, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'e-sport en participant à des compétitions, etc., la KESPA existait déjà et la Corée du Sud avait déjà reconnu l'e-sport en tant que sport en fait au sein de la Corée du Sud. Donc il y a quand même cette avance que nous, on n'a pas en France. On peut prendre aussi l'exemple d'autres pays donc qui sont beaucoup moins connus, beaucoup moins mis en avant. Je prendrai l'exemple de la Pologne, par exemple. Pologne, il faut savoir que l'e-sport en Pologne est reconnu comme un sport depuis le début d'année, mais la fédération polonaise intervient depuis plusieurs années et travaille dans la main du gouvernement depuis plusieurs années justement à la reconnaissance de l'e-sport. Il y a aussi le même cas en Finlande. Hein. En Finlande, l'e-sport est reconnu comme un sport et la Norvège s'en passe aussi d'être comme un sport. Après, sur les pays qui ne sont pas de l'Union européenne, l'Israël qui est également très présent, donc l'e-sport n'est pas reconnu comme un sport, mais la fédération israélienne est reconnue. C'est-à-dire que c'est la fédération israélienne qui a la mainmise sur le déroulement de l'e-sport en Israël. C'est la même chose en Macédoine du Nord et au Monténégro. Donc en fait, il y a pas mal de pays sur lesquels on commence à avoir des gouvernements et des ministères qui commencent à reconnaître l'e-sport. En France, c'est pas encore le cas parce que je connais aussi l'administratif français. Il y a quelque chose à voir, il y a beaucoup de cases à cocher avant d'avoir une reconnaissance officielle, ne serait-ce que pour une association caritative. Être reconnue d'utilité publique, ça met vraiment très longtemps. Donc déjà, si une association caritative a du mal à être reconnue d'utilité publique, on peut se dire qu'il est normal qu'on mette du temps à reconnaître l'e-sport en tant que sport ou en tant que discipline spécifique en France.
D'accord, ma chose qui n'a rien à voir, que penses-tu de l'état actuel de l'e-sport amateur en France?
Alors, c'est un petit joker. En fait, pour moi, il y a 10 ans, en France, on était en avance. Je parle pas pas par rapport à la Corée, mais par rapport aux autres pays européens sur lesquels on se base beaucoup sur ce qui se fait en Allemagne ou ce qui peut se faire un petit peu aussi en Europe de l'Est ou au Danemark. On était très en avance il y a 10 ans parce que on était l'un des seuls pays où et on est toujours d'ailleurs l'un des seuls pays où il y a beaucoup de LAN, d'événements présentiels. Les joueurs en France se déplacent beaucoup alors que dans les autres pays ils se déplacent beaucoup moins. Ça se passe beaucoup plus en ligne et on va dire que les LAN dans les autres pays en général ça va être des majors ou ça va être des tournois très importants avec issus des qualifications en ligne, etc. En France on a quand même ce côté où on aime bien se déplacer, on aime bien faire la fête et donc on a beaucoup de moyens de le faire. Il y a énormément de LAN en France, on parle beaucoup de la Gamer Assembly, de la Lyon eSport, etc.
C'est la fin du quart d'heure eSport sur la première partie de l'émission de la FFJV, la Fédération Française de Jeux Vidéo. Merci de m'avoir suivi tout au long de l'émission. D'ailleurs, cette émission et les anciennes émissions du quart d'heure eSport sont disponibles sur studiozef.fr. Rendez-vous le 7 mai prochain pour une émission sur la seconde partie de l'émission, sur la FFJV, la Fédération Française de Jeux Vidéo. En attendant, retrouvez le quart d'heure eSport sur Twitter et aussi sur Discord. A très bientôt sur studiozef. Le quart d'heure eSport. Une émission sur l'actualité et l'agenda des tournois e-sport amateurs, semi-professionnels et professionnels à l'échelle locale, nationale et internationale. Retrouvez-nous tous les dimanches à 12h30 sur le 91.1 FM pour Blois et ses environs et aussi sur studiozef.fr. Retrouvez aussi le quart d'heure e-sport sur Twitter et sur Discord.